Radio Kapi.
Des éléments de l'AFC M23 appuyés par le Rwanda sont entrés ce mercredi dans la ville d'Uvira. Sans combat, des colonnes de rebelles ont été aperçues dans les principales artères. Certaines se dirigeant vers Kanvivira, à la frontière burundaise. Aucune réaction officielle jusqu'ici. En Ituri, le tronçon Komanda Luna rouvre après 3 ans d'interruption due aux attaques des ADF. C'est un soulagement pour les habitants et les transporteurs. Ils saluent la reprise du trafic sur la route nationale numéro 4. 77 ans après la Déclaration universelle de droits de l'homme, l'ONG Akiza Binadamu Maniema dresse un bilan mitigé, mais relève quelques avancées. Son secrétaire exécutif, Raphaël Oupépélé, est notre invité. Bonjour à tous. Au Sud Kivu, les éléments de l'AFC M23 soutenus par le Rwanda ont fait leur entrée dans la ville d'Uvira ce mercredi sans combat. Selon des sources locales, des colonnes de ces rebelles sont visibles dans les principales artères de la cité, tandis que d'autres prenaient la direction de la frontière congolaise de Kavimvira avec le Burundi. À ce stade, aucune réaction des autorités n'a été enregistrée. Ronly Ntibonera nous donne des détails.
C'est précisément vers 11h30, heure locale, que les premiers éléments de l'AFC M23, appuyés par l'armée rwandaise, ont été aperçus dans la partie nord de la ville vers Kanvivira, en direction du centre de Mulongwe. Selon de notables d'Uvira agents sur place, les rebelles n'ont rencontré aucune résistance en foulant les sols de la cité. En file indienne, un groupe s'est dirigé vers la frontière des Kanvivira, à la limite avec Bujumbura, capitale burundaise. Nous observons leur mouvement depuis nos maisons par peur, a déclaré un habitant de Kiromoni, Jean-Pa Radio Kapi. Cette entrée des troupes du M23 à Uvira intervient alors que les militaires de FARDC s'étaient déjà retirés de la ville depuis hier en direction des Suima, Makobola et Baraka dans les territoires voisins de Fizi, indique de sources sécuritaires. Nous n'avons pas encore reçu la réaction officielle des autorités provinciales du Sud Kivu à ce sujet.
Au sujet justement de la situation tendue au Sud Kivu, le gouvernement congolais alerte sur la régionalisation du conflit par le Rwanda et dénonce la violation de l'accord de Washington. À l'issue d'une réunion présidée ce mardi à Kinshasa par la première ministre, le gouvernement affirme qu'il suit de près la situation qui prévaut sur l'axe Kamanyola-Uvira, où les rebelles de l'AFC soutenus par le Rwanda ont intensifié leur offensive. On écoute Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement, dans cet extrait proposé par Grace Amzati.
La réunion de ce matin avec la première ministre, bien au-delà de ce que nous nous sommes dit à propos de ce qui s'est passé à Washington, c'est de regarder, parce qu'il y a des rapports notamment du CICR et des organisations humanitaires qui nous donnent des informations particulièrement inquiétantes, et donc il était important pour la première ministre chef du gouvernement de réunir autour de lui tous les ministres, notamment ceux de la Défense, de l'Intérieur, pour voir comment on répond efficacement à cette situation. Mais ici, ce qu'il faut noter, parce que nous parlions de Washington justement, que comme le président de la République le disait hier au cours de son allocution devant la nation, le Rwanda viole impunément l'accord que nous avions convenu ou signé à Washington il y a quelques jours. Ce n'est plus simplement violer l'accord que nous avons signé, mais c'est aller vers la régionalisation du conflit, parce qu'il est évident que le Rwanda prend le Burundi aussi en cible, au-delà des actes qui sont posés en République démocratique du Congo. C'est ici aussi le lieu d'interpeller les médiateurs pour que, dans le cadre de ce qui avait été convenu, puisse peser de son poids pour que la paix puisse restaurer, pour que le Rwanda puisse s'y ranger.
Autre réaction, c'est celle du coordonnateur des opérations humanitaires en RDC et numéro 2 de la MONUSCO. Bruno Lemarquis alerte sur l'escalade des violences dans le Sud Kivu. Depuis le 2 décembre, déplore le haut fonctionnaire onusien, au moins 74 civils ont été tués et plus de 83 blessés, alors que les combats entravent les évacuations médicales et touchent écoles et infrastructures civiles. Le point avec Enoch Katumbi.
Plus de 200 000 personnes ont fui à l'intérieur de la province du Sud Kivu, tandis que des milliers traversent la frontière vers le Burundi et le Rwanda. Les conditions de vie des déplacés sont critiques. Abris surpeuplés, risques sanitaires et violences basées sur les genres. Les civils et les infrastructures civiles ne sont pas des cibles. L'usage d'armes explosives dans les zones habitées doit cesser immédiatement, insiste Bruno Lemarquis. L'accord de paix signé le 4 décembre à Washington entre la RDC et le Rwanda offre un espoir, mais sa mise en œuvre dépend de l'arrêt immédiat des violences, note le responsable onusien. Selon Bruno Lemarquis, les acteurs humanitaires se tiennent prêts à intervenir dans les zones affectées dès que la sécurité le permettra. Entre janvier et septembre 2025, plus de 1 500 000 de personnes dans les sites Kivu ont déjà bénéficié d'une assistance vitale, incluant nourriture, abri et soins de santé, précise le communiqué du coordonnateur des affaires humanitaires.
Et puis, les États-Unis d'Amérique et d'autres pays européens exhortent le M23 et les forces rwandaises à cesser immédiatement les hostilités dans cette partie du pays. Dans leur communiqué conjoint publié ce mardi, ces États, à savoir l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, les États-Unis, la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et l'Union européenne réunis au sein du groupe de contact pour la région des Grands Lacs, ICG, se disent préoccupés par cette nouvelle explosion de violence du M23 soutenue par le Rwanda aux alentours d'Uvira, au sud Kivu, proche de la frontière du Burundi. Une situation qui risque de déstabiliser l'ensemble de la région, craignent-ils. Le point avec Grace Hamzati.
Dans le communiqué, ces États déplorent l'utilisation accrue des drones d'attaque dans ces conflits. Ceci, affirme-t-il, constitue une escalade considérable des combats et pose un risque grave pour les populations civiles. Ainsi, au regard de la gravité de la situation, ils appellent le M23 et les forces rwandaises de défense à cesser immédiatement les opérations offensives dans l'est de la RDC, en particulier au sud Kivu. Ils demandent à l'armée rwandaise de se retirer du sol congolais conformément à la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies et au M23 de tenir ses engagements issu de la déclaration des principes signée à Doha le 19 juillet 2025. Ces États exhortent toutes les parties à respecter leurs obligations de protéger les civils, à se conformer à la résolution 2773 du Conseil de sécurité, notamment par le strict respect de l'intégrité territoriale. Ils les appellent à maintenir leurs engagements issus des accords de Washington du 4 décembre 2025 et à engager une désescalade immédiate de la situation. Le communiqué invite par ailleurs l'ensemble des acteurs concernés à s'engager de toute urgence et sans équivoque à appliquer de nouveau les cessez-le-feu ainsi qu'à assurer un accès humanitaire complet, sûr et sans entrave afin que l'aide d'urgence parvienne à ceux qui en ont besoin.
Ouvrons un autre chapitre à présent. En Ituri, le tronçon Komanda Luna, long d'environ 75 km sur la route nationale numéro 4, est de nouveau ouvert à la circulation après 3 ans d'interruption due aux attaques des ADF et à la dégradation de la route. La cérémonie de réouverture a eu lieu hier mardi à Luna, à la limite entre l'Ituri et le Nord Kivu, après des travaux financés par le gouvernement et appuyés par l'armée ougandaise. Une avancée saluée par les habitants qui voit un soulagement tant pour la sécurité que pour le commerce. Isaac Remoyope, reportage.
Au moins 50 véhicules, voitures de transport à commun et camions ont pu rallier Luna et Komanda mardi lors de la cérémonie d'inauguration organisée par les administrateurs des territoires de Beni au Nord Kivu et d'Irumu en Ituri. Les transporteurs qui devaient jusqu'à là contourner par Mambasa ou emprunter la route de Kainama au risque de tomber dans les embuscades des ADF expriment leur satisfaction. Selon eux, la reprise du trafic sur la RN4 présente plusieurs avantages. Un trajet plus court et donc moins coûteux, une meilleure circulation des marchandises et des vivres entre l'Ituri, le Nord Kivu et la Tchopo et une intervention plus rapide des forces conjointes engagées dans la traque des ADF. D'après plusieurs sources, cela faisait au moins 3 ans que ces tronçons n'étaient plus opérationnels à raison de la recrudescence des attaques des ADF qui ont fait de nombreuses victimes civiles et détruit plusieurs véhicules. Les bourbiers aussi rendaient la RN4 impraticable compte tenu de l'importance stratégique de cet axe pour l'économie de l'Est de la RDC. Le gouvernement a financé sa réhabilitation réalisée avec l'appui du génie militaire ougandais. Les usagers demandent désormais au gouvernement de maintenir et renforcer la présence militaire sur cet axe afin de mettre hors d'état de nuire les rebelles des ADF dont les menaces persistent sur cette route stratégique. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Au Maniema, le tronçon routier Samba Loudi dans le territoire de Kasongo est dans un état de délabrement très avancé depuis plusieurs années. Les usagers sont obligés d'emprunter la voie ferrée pour se déplacer. À plusieurs reprises, des collisions des trains ont été évitées de justesse. Le secrétaire administratif faisant fonction du chef de la chefferie de Benia Samba lance un appel aux autorités compétentes pour la réhabilitation de ces axes routiers. Tumba Masala a été joint au téléphone par Kawaya Massimango.
Les tronçons routiers Samba-Luhu D1 laissent à désirer dans le sens que les piétons, les motards, les vélocipèdes, les camionneurs ainsi que les voyageurs à bord de train empruntent les chemins de la voie ferrée car une partie de la route d'au moins 1 km est devenue impraticable il y a de cela 10 ans. Les risques sont très nombreux, surtout que cette voie est exclusivement réservée aux trains seuls et non aux camions, aux vélos et moins encore aux piétons. D'ailleurs, la population de Samba s'approprie en nourriture qu'au niveau des Simemas, Nganze et Lubao, voire même à Malela. Mon message s'adresse aux autorités tant provinciales que nationales de songer à réhabiliter ces tronçons longtemps oubliés pour l'intérêt majeur de la population.
Au Kassai central, la dynamique chute Katende déplore que les travaux de construction du barrage hydroélectrique de Katende se poursuivent sans aucune participation de la communauté locale. Selon son coordonnateur Possien Divin Misenga, ni la société civile ni la population ne sont informés de l'évolution du projet. Il rappelle que le principe de bonne gouvernance exige transparence et communication. Possien Misenga appelle donc le gouvernement central ainsi que l'entreprise Angélique, qui exécute le projet, a informé la population sur l'avancement des travaux. Il est au micro d'André Katende Ngalamouloumé.
Le projet Katende ne doit pas être exécuté d'une manière isolée. C'est un projet qui fait battre le cœur de tout centre kassaïen parce que ça doit être l'ego du développement de notre région. Et là, nous voulons attirer l'attention du gouvernement central auprès de qui nous avons fait des recommandations pour l'implication communautaire afin que la population puisse avoir l'idée nette de ce qui se passe à Katende parce que tout projet public doit être exécuté avec l'appui, la participation aussi citoyenne. C'est ce que la bonne gouvernance nous exige. Malheureusement, il y a un groupe qui s'est tout accaparé et ça, ils isolent complètement la participation citoyenne. Nous voulons demander au gouvernement d'essayer d'ouvrir les cadres à la participation citoyenne. La société civile n'est pas du tout informée et la population aussi d'une manière générale. C'est ce que nous avons demandé au président de la République pour avoir chaque trimestre des tribunes de restitution pour savoir l'exécution du projet.
Repris en août 2025, après environ 8 ans d'arrêt, les travaux du barrage hydroélectrique de Katende sont censés durer 24 mois. Indignation au Kassai oriental après un acte choquant survenu hier mardi à la veille de la clôture des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Une femme de la localité de Benakassa 2 a été emmenée nue au commissariat de police de Munkamba dans le territoire de Kabeya Kamwanga par le chef de groupement. Selon plusieurs sources concordantes, elle aurait été surprise en flagrant délit d'adultère. Les femmes leaders de Mbujimayi dénoncent cette humiliation publique qu'elle qualifie de grave violation de droits de la femme et exige réparation. Rose Babila, ancienne ministre provinciale du genre, s'exprime au micro d'Esther Ndalafina.
Nous, les femmes leaders, nous dénonçons avec beaucoup d'amertume les comportements inhumains et dégradants infligés à une dame de Munkamba par le chef Kabodji pendant cette période de 16 jours d'activisme où toutes les femmes sont debout pour sensibiliser sur les violences basées sur le genre. Et cette femme, on l'a fait promener tous les villages nus, sans habits. Nous dénonçons ça. En tout cas, nous demandons à la justice de se saisir de ces problèmes parce que ça, c'est mettre la femme dans l'insécurité qui ne dit pas son nom. Quelle que soit l'ampleur du problème, la femme ne doit pas être traitée de cette manière. Nous dénonçons ça avec notre dernière énergie, que ça ne se répète plus. Plus nous sommes vraiment indignés de ces comportements que ce chef a infligés à cette femme. La femme a droit à la dignité, au respect, à l'honneur, à la sécurité.
Actualité internationale. Aujourd'hui, mercredi 10 décembre, est la journée internationale de droits de l'homme. Au Congo-Brazza, le Centre d'action pour le développement, CAD, dénonce à cette occasion ce qu'il qualifie de politique sécuritaire expéditive. Dans un rapport publié ces débuts de semaine, l'organisation dénonce une augmentation des cas de violation des droits civils dans un pays où les autorités luttent depuis plusieurs mois contre le grand banditisme.
L'invité.
Notre invité est Raphaël Oupépélé, secrétaire exécutif de Akiza Binadamu Manema. Il dresse un bilan mitigé de la mise en application de la Déclaration universelle de droits de l'homme par les Nations unies 77 ans après. Toutefois, il salue certaines avancées observées, bien qu'il reste encore beaucoup à faire. Raphaël Oupépélé Lokenga s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur Raphaël Opelele Lokenga, bonjour.
Bonjour.
Depuis l'adoption par les Nations Unies de la Déclaration universelle des droits de l'homme, aujourd'hui 77 ans qu'on célèbre chaque année la Journée internationale des droits de l'homme. Quel bilan faites-vous de cette journée?
Le bilan, il est vrai, il est mitigé parce que législativement, c'est-à-dire du point de vue législatif ou documentaire, il y a plusieurs documents ou instruments juridiques internationaux qui ont été adoptés et il y a aussi beaucoup de mécanismes qui ont été mis en place. Et il y a aussi quelques avancées notables en termes de liberté, des droits, mais il y a encore beaucoup de choses à faire parce qu'il y a encore des fossés entre les prescrits légaux ou les prévisions légales de cette déclaration des droits de l'homme et la réalité sur le terrain. Mais tout ça demande à ce que chacun de nous mette la main dans la pâte. Sinon, il y a quand même une volonté politique de certains États, mais il appartient à chacun de nous de mettre en œuvre, de revendiquer, parce que les droits de l'homme sont des droits de revendication. Nous ne devons pas attendre qu'on nous donne comme sur les plateaux, sur les assiettes.
Pour les communs des mortels, que vise cette déclaration universelle des droits de l'homme?
Bon, la déclaration universelle des droits de l'homme inscrit toutes les catégories des droits de l'homme, que ce soit les droits civils, les droits politiques, les droits économiques, sociaux et culturels. Et tout ça, ça concerne tout le monde, que ce soit au niveau du pays, du continent et aussi international. Voilà pourquoi on parle de l'universalité, de la transversalité des droits de l'homme. Chacun de nous doit savoir qu'il est titulaire de ses droits et les prérogatives qui y sont reconnues. Il doit les savoir pour les revendiquer après, sinon ce sont les produits de la revendication.
Dans les pays comme le nôtre, la République démocratique du Congo, qui se veut un état des droits, est-ce que les droits de l'homme sont respectés?
Évidemment, les droits de l'homme sont respectés à une proportion qui n'est pas satisfaisante, parce que nous sommes en train d'exercer nos droits, mais à l'instar aux idées, notamment de la Déclaration universelle, c'est là où nous ne sommes pas encore arrivés, mais nous devons savoir que les droits de l'homme aussi, la déclaration elle-même, c'est un idéal qu'on met à atteindre. On n'a jamais atteint l'idéal à 100%. Mais ça dépend aussi de la manière dont nous sommes en train de faire l'effort. Mais il y a, comme je le disais tantôt, il y a la volonté politique. Par exemple, dans notre pays a ratifié beaucoup d'instruments juridiques internationaux et aussi, il a honoré ses engagements en édictant plusieurs textes légaux au niveau national qui se conforment à cette déclaration. Et même la Constitution, la nôtre, la Constitution a affirmé son attachement aux instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme en les citant nommément, notamment la Déclaration universelle, les pactes, la Charte africaine. Tout ça, c'est la volonté politique, mais l'application, c'est une responsabilité aussi de l'État, mais aussi de chacun de nous. Parce que l'État a déjà mis en place les mécanismes. Il est question de chacun de nous d'actionner ces mécanismes pour être rétabli dans ses droits.
Mais nous observons qu'il y a de l'ignorance au sein de la communauté. Qu'est-ce que vous, les acteurs de défense des droits de l'homme, vous faites pour vulgariser cette loi?
C'est par exemple aujourd'hui, nous sommes en train de vulgariser. Nous allons distribuer plusieurs exemplaires de la Déclaration des droits de l'homme pour ôter cet alibi de l'ignorance dans les chefs de beaucoup de gens. Mais aussi, nous avons plusieurs activités de promotion, notamment comme nous sommes ici dans la conférence débat avec les différentes couches de la population, la sensibilisation, la formation et aussi les différents rapports, l'assistance, pourquoi pas, les victimes des violations des droits de l'homme. C'est ce que nous faisons pour que nous atteignions les objectifs fixés par les Nations Unies en adoptant la Déclaration universelle des droits de l'homme.
À part l'ignorance, il s'observe également que ce sont les décideurs qui sont les premiers violeurs de ces droits de l'homme.
Il est vrai, quand on parle de violation des droits de l'homme, on voit les préposés de l'État, les fonctionnaires de l'État, parce qu'ils représentent l'État. Ils sont les responsables d'application de loi. Ils sont aussi des titulaires des obligations. Voilà pourquoi, quand on parle de violation des droits de l'homme, on fait allusion à cette catégorie de personnes, ou soit par leur instigation, soit leur complice, tacite ou expérimentée. Et pourtant, les droits de l'homme sont des obligations, des impératifs catégoriques de ces autorités-là de l'État.
Comme pour cette année, le thème c'est droits humains, nos essentiels de chaque jour. Ça apporte quel message?
Ça veut dire que tout ce que nous faisons chaque jour rentre dans les droits de l'homme. Les droits de l'homme concernent tout le domaine. C'est-à-dire que chacun de nous doit mettre la main dans la pâte. Sinon, nous ne pouvons pas laisser au seul les décideurs. Mais nous, du fait que nous sommes les titulaires de ces droits, nous devons faire un effort pour soit les promouvoir, soit les revendiquer, soit aider aussi les victimes qui sont en détresse à être rétablies dans leurs droits.
Monsieur Raphaël Upelele Lokenga, je vous remercie.
À moi de remercier la Radio Okapi.
Et c'est par ici que prend fin ce journal qui a été coordonné par Élisée Chikota, mis en onde par Pierre Diassinois, présenté par Jocelyne Moussaopoundé. Livine Mwinga l'a supervisé. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le réécouter sur www.radiokapi.net.